simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Aujourd'hui, il va être question de la gestion de l'eau. Alors que les sécheresses s'étendent, que l'eau devient de plus en plus précieuse et que son accaparement par une minorité se fait de plus en plus prégnante, les luttes pour sa préservation se multiplient. Il en ressort l'extrême importance d'internationaliser les luttes et de les fédérer, de continuer de se soulever pour défendre l'eau comme commun et non pas comme une marchandise. Respecter un partage juste des droits d'usage sur les biens communs, terre et eau, et de développer des systèmes de coopération et non de domination et de compétition. Et ainsi, dans le cadre de la mobilisation internationale contre les méga-bassines, le vendredi 24 mars 2023 se tenait à Mel, dans les Deux-Sèvres, une table ronde intitulée « Regards internationaux sur les luttes paysannes et pour les terres et les enjeux liés à l'eau ». Et lors de cette émission, nous entendrons les interventions de Morgane Audi, paysanne en Bretagne et coordinatrice générale de la Via Campesina, Marie-Pierre Rebecco, paysanne en Isère et secrétaire nationale de la Confédération paysanne chargée du dossier de l'eau, et Massa Koné, paysan au Mali et porte-parole de la convergence malienne contre l'accaparement des terres et de la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest. Bonne écoute.
Alors, ça fait plus de 5 ans, presque 6 ans, que le collectif Bassines Non Merci et la Confédération Paysanne se battent sans relâche contre le projet mortifère des méga-bassines, dans les Deux-Sèvres, mais aussi dans d'autres territoires. On a été rejoints par les soulèvements de la terre, par des partis politiques, par des syndicats et par plus d'une centaine d'associations et de collectifs. Et vous avez vu le résultat, aujourd'hui, on en parle tous en France. Et ça, c'est important. Mais ce qui était important pour nous aussi aujourd'hui, c'est qu'on puisse sortir de ce cadre européen, sortir de ce cadre français et aller plus loin pour parler aussi de ce qui se passe à l'international, pour parler des luttes en général, des luttes de l'accaparement de l'eau. Puisqu'en fait, que ça soit les méga-bassines ou d'autres projets, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on revient toujours à la même question, toujours au même mécanisme, un mécanisme d'accaparement de l'eau par une minorité et en plus une minorité qui monte des projets à l'encontre de nos propres valeurs, qui vont des projets vers l'agro-industrie, vers l'accaparement des richesses, le grand capital, le capitalisme, et il n'y a aucun partage, aucune démocratie sur la gestion de ce bien commun. Et c'est pour ça que c'était très important pour nous de pouvoir mettre en place ces soirées, de parler en fait de convergence des luttes, de façon à pouvoir voir et décortiquer ces mécanismes, et en apprendre plus, et en apprendre aussi plus grâce à nos invités, qui vont aussi nous pouvoir nous parler de leur lutte. Pour cela, je vais passer la main à Véronique, secrétaire de la Confédération paysanne, qui va animer la soirée. Merci.
Donc ce soir, la table ronde, c'est une table ronde qui pose des regards internationaux sur les luttes paysannes pour la terre et pour tous les enjeux qui sont liés à l'eau. Et pour ça, on a trois invités. Donc, on va commencer Morgane Audi, qui représente la Via Campesina, Massa, qui est un paysan du Mali, et Marie-Pierre, une paysanne d'Isère. Je vais les laisser se présenter et présenter les structures, les collectifs, les mouvements qu'ils représentent aujourd'hui, avant qu'on attaque les questions de fond.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très émue d'être parmi vous. Donc moi, je suis paysanne dans le Morbihan, en Bretagne. Je fais partie de la Confédération paysanne. Et la Confédération paysanne, avec le MODEF, une autre organisation paysanne française, font partie du grand mouvement paysan mondial qui s'appelle la Via Campesina. La Via Campesina regroupe plus de 180 organisations de paysans, de paysannes, mais aussi de travailleuses et de travailleurs agricoles dans le monde entier, sur le continent américain, dans les Caraïbes, en Afrique, en Europe, en Asie, dans le monde entier. Les organisations qui font partie de la Via Campesina rassemblent plus de 200 millions de personnes dans le monde. Donc même si parfois, quand on est en Europe, on a l'impression qu'on n'est pas beaucoup de paysannes et de paysans et que parfois on se sent un peu impuissant face aux très gros agriculteurs, au niveau mondial, c'est nous qu'on est les plus forts. Et si vous connaissiez pas la Via Campesina jusqu'ici, il faut absolument que vous sachiez ce que c'est que la Via Campesina. Par exemple, en Inde, le très gros mouvement qui a combattu les mesures néolibérales du gouvernement Modi, c'était en partie des organisations qui font partie de la Via Campesina. Vous connaissez peut-être le mouvement des sans-terres au Brésil. Et puis voilà, je crois qu'il faut aussi apprendre à connaître la CNOP au Mali, le CNCR au Sénégal et tant d'autres organisations paysannes qui luttent dans leur territoire pour l'agroécologie, pour les droits des paysans, pour la souveraineté alimentaire des peuples, pour tout ça. Voilà, et ben, je passe la parole à Massa.
Moi, je m'appelle Massa Kone. Je dis bonsoir à tout le monde et je suis très ravi d'être parmi vous et de me joindre à la lutte de la bassine Non Merci, qui est une lutte noble et une lutte pour sauver la planète, pour raison que l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est pour nous tous, l'eau, c'est notre existence. Je suis membre de l'Union, mon organisation locale, qui est le réseau des communautés victimes d'expropriation foncière, d'accaparement des terres, de l'eau. Et je suis du Mali, de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une zone qui est à 70% communautaire et qui vit de l'agro-silvopastoral. Donc, raison pour laquelle nous nous battons pour une bonne gouvernance. Et mon organisation, qui est l'Union, est membre de la convergence malienne contre les accaparements des terres. Et la convergence, pourquoi la convergence contre les accaparements des terres, sur la définition du nom dit tout. C'est le réseau des mouvements paysans, des mouvements de lutte de base qui sont mon organisation, des ONG progressistes et des ONG des droits humains, la CNOP et l'AOPP, CAD Mali. Toutes ces grosses organisations du Mali se sont mises ensemble pour créer la convergence malienne contre les accaparements des terres pour l'unique raison que l'enjeu qui est aujourd'hui derrière la terre, derrière l'eau, derrière les semences paysannes menace toute une humanité, mais affecte plus le monde paysan. Nous travaillons pour nourrir le monde, mais la seule matière qui nous permet de nourrir le monde est menacée. Donc nous sommes mis ensemble pour cette raison. Et la convergence malienne est membre de la convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes ouest-africaines, qui est 16 pays de l'Afrique de l'Ouest plus la Mauritanie. Nous nous revendiquons de la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. C'est les chadors, c'est les chefs d'État, on le sait, c'est le syndicat des chefs d'État. Mais nous sommes la CEDEAO des peuples pour l'unique raison que nous sommes liés géographiquement, historiquement, culturellement. Et c'est la balkanisation qui a fait qu'on a des frontières comme ça qui n'est pas tracée par nous. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils ont tracé. Donc nous ne sommes pas d'accord, donc nous sommes mis ensemble. Mais nous nous battons pour mener la lutte, globaliser la lutte, internationaliser la lutte. Parce que ce n'est pas un seul pays ou une seule organisation qui peut mener cette lutte, qui peut venir au bout de cette monstre, qui veulent nous contrôler quelques individus, qui veulent nous contrôler en nous montant les uns contre les autres. On a compris, raison pour laquelle nous sommes mis ensemble au sein de la convergence globale des luttes pour mener cette combat. Et je suis enchanté d'être avec vous. Et pour moi, c'est logique que tout le monde soit là pour lutter. Merci.
Marie-Pierre Epeco, je suis paysanne en Isère, c'est l'Arc Alpin, c'est un peu plus à l'est. avec une liaison qui se fait avec vous, tout naturellement, vous qui habitez dans l'Ouest. Très spécial cette année sur l'arc alpin, mais on aurait pu parler des Pyrénées également. Pas de manteau neigeux, les glaciers sont à vif. On va pas vous en envoyer beaucoup d'eau douce. L'océan va peut-être continuer à se chauffer et à s'acidifier. D'aucuns diront qu'ils auront l'high-tech pour régler ce problème-là. On est là pour réfléchir avant qu'ils ne fassent n'importe quoi. Sur ma ferme, des poules pondeuses. Donc le plein air, vous voyez aussi de quoi il est question quand on parle de cela. Des céréales qui ne sont pas irriguées pour faire de la farine et du pain vendu en direct. Des vaches allaitantes, limousines entre autres et aubrac. Et quelques cochons. Dans le même temps, je suis aussi... En plus d'être paysanne, je donne un peu de mon temps parce qu'on a réussi à s'organiser sur la ferme pour cela et c'était important pour nous, pour la Confédération paysanne nationale, donc l'étage français, en convergence avec tout ce qui se passe ailleurs. Et c'est ça qui nous porte aussi. Et cette entrée symbolique par cette gestion de l'eau nationale qui promeut ce genre de rétention d'eau fait que depuis quelque temps, nous avons rejoint ce qui se passe ici avec les paysans de ce territoire-là et avec les associations, donc Bassine Non Merci et le mouvement Soulèvement de la Terre. Voilà.
Du coup, là, on va parler des enjeux à l'échelle nationale, des enjeux à l'échelle internationale et puis des enjeux aussi pour l'Afrique de l'Ouest. On va commencer par Marie-Pierre qui va nous parler de l'eau et l'agriculture en France et les grands défis qu'on a à relever.
Alors, en tant que paysanne et paysan, l'eau est bien sûr un de nos fondamentaux avec le sol, la terre et j'ai envie de dire l'air, le feu, je le mettrais à part. Sans eau, il n'y a pas de vie végétale, il n'y a pas de production de matière alimentaire, bien évidemment. Pour autant, sachez que 93% de la surface agricole utile n'est pas irriguée. C'est-à-dire que cette entrée par cette gestion de l'eau de la grande irrigation concerne 7% de la surface agricole utile française. Surprenant, non, ce pourcentage-là. Et c'est assez stable depuis pas mal de temps. Donc, je fais partie des paysannes et des paysans qui conduisent une agriculture dite pluviale. Alors, bien sûr que ça se coud dans les branches, parce que après une réelle sécheresse estivale, comme vous l'avez tous et toutes connu, je parle bien sûr de l'Hexagone, hein, Massa, tu nous diras ton éclairage aussi, et une sécheresse hivernale, même si on a longé la Vienne pour venir et qu'elle est haute parce qu'il y a eu quelques orages ou pluies, on est vraiment dans un épisode sur le château d'eau qu'est l'Hexagone, extrêmement particulier du point de vue du stress hydrique. Et d'ailleurs, le gouvernement se pose quelques questions, nous convoque à des missions d'audition sénatoriale ou avec les députés, nous demande de contribuer à leurs réflexions. Parce que actuellement, 1000 communes ont un problème d'accès à l'eau potable. C'est sur l'Hexagone, hein, château d'eau de l'Europe, que les collègues géohydrologues quasi du monde entier regardent d'une façon très précise. Nous avons un stress hydrique sur un coin de la planète qui pourtant promettait de nous mettre à l'abri de tous ces soucis-là. Donc, il faut effectivement une politique de gestion de l'eau. Et nous préconisons une priorisation. Il faut bien sûr que l'eau potable soit assurée pour les humains, trop humains. L'abreuvement des animaux. Alors, sachons de quels animaux nous parlons. Il y a peut-être débat à avoir par rapport à l'élevage industriel. Et puis, une priorisation sur le maraîchage, bien évidemment, et l'implantation de l'arboriculture. Ces données-là peuvent être reprises et pour autant dévoyées. Et c'est bien parce que nous voulons que ce soit entendu stricto sensu, sans détourner les concepts et les réalités, que nous sommes ici précisément pour reporter à la connaissance de toutes et de tous et des élus pour qu'il y ait une nouvelle politique de gestion de l'eau qui soit remise à plat. Voilà pour le panorama sur lequel nous ouvrons ces moments-là.
Alors l'eau est très inégalement répartie sur toute la surface du globe et donc par endroit ça provoque des conflits vraiment importants et donc du coup Morgane va nous exposer plutôt ces aspects-là.
Dans la Via Campesina, à peu près toutes les organisations paysannes et de travailleurs agricoles, la lutte pour ne pas se faire piquer les territoires sur lesquels on vit par des multinationales, c'est une lutte qui existe dans tous les pays du monde. Et pourquoi est-ce qu'on doit lutter pour une chose assez simple, en fait. Ce qu'on appelle le capitalisme ou l'accumulation du capital, ça suppose qu'il y ait de plus en plus de parties du territoire, du vivant et de nos vies qui deviennent des marchandises. Et concrètement, ça veut dire que pour que la machine capitaliste elle continue à tourner, il faut qu'il y ait de plus en plus de terres, d'eau, de semences et de parties de nos vies, de notre travail, qui soient mangées par cette machine capitaliste. Et donc ça, c'est vraiment une chose qu'on vit partout, au nord comme au sud, même si c'est avec des mécanismes différents, sur tous les éléments de la vie. Et donc l'eau, bien sûr, c'est très clairement une des richesses naturelles qui est accaparée de façon massive. Dans les pays du sud, ce qui est très clair, c'est que c'est un processus qui est très lié à l'impérialisme européen et à la colonisation. C'est-à-dire que les colonisateurs ont mis en place des grandes plantations pour pouvoir faire en sorte que, au lieu de produire l'alimentation pour les populations, que les territoires des pays du sud servent à produire des produits pour aller au nord. Du cacao, du café, et puis à l'heure actuelle, énormément d'huile de palme, encore de l'EVA, et tout ce qu'on appelle finalement les cash crops. Et l'essentiel de l'eau dans les pays du Sud, elle est accaparée, non pas au bénéfice des populations locales, mais pour ces cultures qui n'ont rien à voir avec les intérêts des populations locales. Et je vais vous donner deux exemples assez précis et en plus assez proches de nous. Un exemple, c'est au Maroc, qui est un pays qui manque cruellement d'eau et où l'eau est accaparée de façon massive pour produire les fruits et légumes qui viennent ensuite, moi je suis maraîchère, qui viennent ensuite nous concurrencer. Et c'est pas les petits paysans qui produisent les fruits et légumes qui arrivent sur nos marchés à des prix cassés. C'est des multinationales. Et ces multinationales, elles ont avec l'État marocain un accès quasi illimité à l'eau quand les communautés paysannes, elles ont plus d'eau, leurs forages sont à sec parce que les multinationales ont tout pris. Donc ça, c'est le premier exemple. Un autre pays pas très éloigné, où j'ai eu la chance d'aller en octobre, c'est la Tunisie. Et en Tunisie, le cash crop, c'est pour beaucoup le tourisme. Et les paysans, là-bas, ils disaient, en fait, on a des robinets, il y a les réseaux d'eau qui sont installés, mais en fait, pendant toute la période touristique, on a de l'eau entre minuit et 3h du matin, parce que pendant le reste du temps, l'eau, il est réservé aux hôtels pour les touristes. Et donc voilà, un peu partout dans le monde, l'eau, elle est utilisée, elle est volée pour faire du fric au détriment des droits des populations et notamment des populations rurales. C'est contre ça que la Via Campesina, elle lutte. Nous, on a une lutte en fait assez simple. Hein. On veut rester paysanne. On veut continuer à produire de l'alimentation. On le veut pour nous, parce que même si ça peut être dur économiquement et que des fois on en a plein le dos, c'est le plus beau métier du monde de travailler avec la nature. Mais on le veut aussi pour vous, pour la population. Parce que si on n'est pas là pour produire l'alimentation, nous, il n'y aura pas d'alimentation. Encore aujourd'hui, avec tous les coups qu'on se prend sur la tête, avec l'humiliation culturelle que représente le fait d'être paysan, avec les accaparements, avec les prix qui sont des prix de misère, avec tout ça, malgré tout, les petits paysans et les petites paysannes, nous produisons encore de l'alimentation pour plus de 70% de la population mondiale, avec moins de 30% des terres et probablement moins de 10% de l'eau. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, c'est nous, les paysannes et les paysans, qui faisons que la population mondiale, elle peut s'alimenter correctement. À l'heure actuelle, il y a près d'une personne sur 10 qui ne mange pas à sa faim dans le monde. Mais juste imaginez, si au lieu d'avoir 30% des terres et 10% de l'eau, si on avait 50% des terres et 20% de l'eau, si on avait un peu plus, eh ben en fait, ce serait très facile que tout le monde puisse manger à sa faim dans le monde. Pour nous, c'est ça l'enjeu, c'est faire en sorte de partager équitablement les ressources, que nous, les paysannes et les paysans, on puisse avoir notre part d'eau, notre part de terre, pour pouvoir produire l'alimentation dont tout le monde a besoin en prenant soin de la terre.
Merci Morgane. Et du coup, maintenant, Massa va nous expliquer qu'effectivement, chez lui, l'industrie concurrence fortement une agriculture vivrière.
Avant de vous parler du contexte, il faut que je vous dise une petite histoire de l'Afrique. L'Afrique, d'abord, est naturellement rurale. Les grandes agglomérations urbaines sont venues par la colonisation, qui ont regardé stratégiquement pour faire des villes, afin d'amener tout ce qui réussit ici en Occident, ils amènent chez nous. C'est pour vous faire comprendre que l'Afrique, je le dis pour toute l'Afrique, est agro-silvopastorale. Les gens, on n'était pas des pays où tout, qu'on parle d'emploi, on parle de tout ça est venu avec les études universitaires, avec la colonisation, avec le développement, les usines, mais vous allez voir tous les villages que vous allez voir en Afrique, est installé au bord d'un point d'eau. Soit c'est des oasis, soit c'est des lacs, soit c'est des bras de fleuves, soit c'est au bord de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que l'activité que nous menons traditionnellement et naturellement est liée à la terre et à l'eau. Qu'on soit éleveur, qu'on soit pêcheur, qu'on soit agriculteur, qu'on soit planteur, c'est lié à ces trois matières. Donc avec le développement et tout, donc vous allez comprendre que notre histoire c'est ça. Pourquoi ces trois matières? Parce que notre vie, nos activités dépendent de ces trois matières. Avec maintenant tout cet événement, ville, développement, système, état de la nation, donc le système a mis l'eau dans sa gestion. Et dans cette gestion, vous allez voir qu'ils ont légiféré et dans toutes les lois qu'on a, l'eau est gérée. L'eau, la terre, les ressources naturelles est gérée dans des législations qu'on appelle soit des codes fonciers, soit des codes et des lois sur le foncier. Et dans toutes ces lois, après les colonisations et tout, ils ont écrit dans la législation que les ressources naturelles, la terre et tout, tout appartient à l'État. Mais à l'indépendance, nos parents, il n'y avait même pas 3% qui savaient lire et écrire. Le contenu de la loi était complètement ignoré par nos parents. Pour eux, avant la colonisation, il y avait une gestion traditionnelle, une gouvernance locale qui était là. C'est comme si quelqu'un vient, il domine, s'il part, tout reprend à zéro. Donc tout redevient normal. Nos parents ont pensé que tout est redevenu normal. Tout est redevenu normal, chacun dans son territoire, chacun est dans son tribu, chacun a sa forme de gestion des ressources naturelles. Or c'était le contraire, puisque c'était écrit autrement dans la législation. Mais avec le temps, l'évolution du temps, la pression foncière qui a commencé, et le développement du business, du système capitaliste, des grandes entreprises, l'exploitation minière, parce que, vous savez, l'Afrique quand même, on a nos pays, que surtout le Mali, dont je viens, a beaucoup de ressources naturelles. Donc, avec toutes ces exploitations, les gens ont su maintenant que, effectivement, nous sommes dans nos territoires, mais rien ne nous appartient. Pour la seule raison, pour signer un permis d'exploitation, pour signer un bail amphithéotique, ils n'ont pas besoin de venir demander les communautés qui vivent dans le milieu. Un bon matin, vous vous réveillez, vous les revoyez avec les 4x4. accompagnés des policiers ou des milices pour venir vous dire, bon, on a un permis, on va venir faire l'exploration ou l'exploitation. Donc c'est pour vous montrer comment ce hold-up a été organisé par nos propres élites qui se disent aujourd'hui administrateurs des communautés. Donc c'est comme ça que les gens se sont rendus compte que vraiment, ils sont dans leur terroir, leur fleuve qui est là, traditionnellement, qui a des ressorts traditionnels, qui a des trucs naturels. Rien de tout ça ne les appartient. Si l'État a besoin, l'État, le peuple ne fait plus partie de l'État, ça c'est depuis longtemps. Donc si l'État a besoin, ils viennent prendre comme ils veulent. C'est comme ça, quand ils traitent avec les multinationales, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune passage de leur contrat, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, qui contrôle la consommation de l'eau ou l'utilisation de l'eau. Donc c'est ce qu'il fait, par où ils prennent la terre, par où ils font l'exploitation minière, ils comptent sur l'eau. Et on se trouve avec l'eau de nos fleuves, les fleuves, que ce soit les fleuves Niger, que ce soit les fleuves Sénégal, que ce soit leurs affluents qui sont là, sont tous aujourd'hui pollués par l'exploitation minière. Ils le polluent comment ? Ils utilisent l'eau pour refroidir leurs machines, ils utilisent les mêmes eaux pour traiter les minéraux. Puisque nous avons une grosse communauté pêchère, nous utilisons les mêmes eaux pour boire. Il y a quelque chose que je dois dire. Nous ne sommes pas à l'ère où, dans nos villages, on a des robinets. Non. 90% de nos villages n'ont pas de robinets. On vit avec l'eau de puits. Les puits qu'on crève jusqu'à une certaine profondeur, on a de l'eau et très souvent, c'est de l'eau quand même qui est vivable. Ou on prend l'eau des marigots, des rivières, des fleuves qui sont là, et essayer maintenant de le conserver pour le purifier et le boire. Puisqu'on n'a pas les robinets, l'État ne fait pas d'efforts pour nous fournir de l'eau. Et nous travaillons nos terres, en tant que paysans, nous travaillons nos terres avec cette eau. Et cette eau est polluée. Avec l'utilisation des multinationales, l'eau devient, un, d'abord rare. On a des cours d'eau qui sont en train de disparaître, complètement disparaître. On n'a pas suffisamment de pluie avec le dérèglement de la pluviométrie, avec les changements climatiques, où ils ont des entreprises qui sont là à déforester complètement, à couper tout. Donc, notre dernier recours était l'eau de puits. Et là, maintenant, qu'il y a beaucoup de pression, qu'eux-mêmes, ils ont tellement utilisé l'eau des fleuves qui sont là, qui ne sert plus, donc ils ont commencé maintenant à aller maintenant puiser dans la nappe phréatique. Nous, nos puits sont à 5 mètres, 4 mètres, 10 mètres, et ils viennent avec les machines, ils creusent très profondément et des puits où ils installent des machines et ils vont en profondeur de nos puits, donc ça achète tous nos puits. Donc on se retrouve encore sans eau. On se retrouve encore sans eau. On est obligé de courir derrière eux pour avoir de l'eau. Donc vous avez vu comment ils nous utilisent et ils utilisent notre vie. Ils ne sont jamais en problème d'eau. Les communautés qui sont là, qui sont propriétaires de tout ce taux, qui vivent de ce taux, et c'est de ces mêmes communautaires qui travaillent la terre pour les nourrir. C'est ces mêmes communautés qui se trouvent en difficulté de moyens d'existence. Ils utilisent leurs moyens pour s'abreuver, utiliser l'eau comme ils veulent, au détriment de ces communautés qui sont pourtant se soucier de ces communautés. Et nous sommes obligés de faire la courbette auprès d'eux. Et là, quand tu ne fais pas bien, tu es interdit, et quand tu résistes, tu ne bénéficies pas de leur charité. Raison pour laquelle, c'est pour vous montrer comment ils utilisent l'eau et comment ils nous mettent en danger avec ce problème d'eau. Donc, puisqu'il y a cet accaparement des terres, puisque nous vivons de la terre, nous sommes obligés de nous organiser. Nous étions obligés de nous organiser. C'est ce qui fait que j'ai présenté les organisations dont je fais partie. D'abord, l'Union, nous sommes des communautés victimes d'accaparement d'eau. Et même dans les zones où ils font des bails amphithéotiques pour faire de la monoculture, vous allez voir les zones où ils ont aménagé. Nous, paysans, on n'a qu'un demi-hectare, on paye une redevance d'eau. Mais le multinational qui est là paye 0 franc en eau. 0 franc. Il pompe l'eau des canaux, il met des herbicides, il le pollue avec tous les produits chimiques parce qu'ils veulent rapidement traiter, rapidement pomper la terre, rapidement pomper l'eau pour faire beaucoup de production, pour exporter. Et nous, qui travaillons pour vivre et pour faire vivre les autres qui sont en ville, et c'est nous qui devons payer cher l'eau. C'est comme si nous ne sommes pas les citoyens de ces pays. Donc, au-delà de ça, nous sommes organisés. C'est cette organisation que je vous ai parlé, qui est la convergence malienne contre les accaparements de la terre, et qui est allée en convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit nous battre pour notre survie. On ne se bat pas pour faire plaire, mais on se bat pour vivre. On n'a pas d'autre choix. Donc, dans nos luttes, c'est ce qu'on essaie de dire. Quand on va même devant les autorités, parce qu'on organise des grandes caravanes à chaque 2 ans, même cette année, nous allons le faire. On traverse plus de 5 pays. Bon, j'ai oublié de le dire, pour que j'ai le foulard de la Via Campesina, on se retrouve à la déclaration paysanne. Nous sommes des mouvements, plus de 80% des mouvements qui sont dans la convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes sont membres de la Via Campesina. Parce que pourquoi on a internationalisé cette lutte? Parce que nous avons vu que ce problème d'eau est au-delà des pays. L'eau n'est pas pour un seul pays. L'eau est pour nous tous, c'est comme de l'air. C'est pour nous tous. Autant qu'ils polluent chez nous, autant qu'ils vont polluer ailleurs. Donc autant se trouver dans ce groupe de lutte pour trouver des alternatives communes pour les bloquer. Et pour les bloquer, nous on a compris, parce qu'ils essaient de nous miroiter pour nous dire, parce qu'ils nous ont monté les rurales et les citadins, sur l'eau qu'on boit et l'eau qu'on mange. Les citadins, on leur dit, non, on va vous faire des robinets, on est en train de faire tout ça pour que vous ayez de l'eau potable. Pour boire. Et il dit, oui, on a besoin de l'eau parce que nos femmes n'ont pas d'eau, les jeunes n'ont pas d'eau. Mais ils détruisent l'eau qu'on mange parce qu'ils détournent toute notre vie de l'eau. Comme l'eau qu'on mange, c'est quoi? C'est les fruits, les poissons, les légumes. Et là, ils détruisent tout en disant aux citadins, ça, c'est pas votre affaire. Ça ne vous regarde pas. Ne vous associez pas à leur lutte. Non. Et nous, on va vous donner à boire. Et donc, mettre l'eau dans une bouteille, ils ont fait ça comme un luxe dans les villes. Même si tu viens voir un parent en ville, tu le trouves avec une petite bouteille, il vient te donner. Donc, tu vois tellement qu'ils ont travaillé sur la tête, sur la psychologie, que pour les gens, il faut avoir ce sachet d'eau pour montrer que, ah oui, moi aussi, je suis civilisé. Or, on est en train de détruire ta vie, on est en train de piquer tout ce que tu gagnes à ton détriment, tu es en train de les servir, tu ne peux faire aucune économie. Or, l'eau ne doit pas être quelque chose qu'on doit vendre. On est avec cette eau, il est en nous, on est à lui, donc on doit nous battre pour le conserver. C'est ce qu'on a essayé de développer, à dire à travers nos caravanes, on part sur les points d'eau, parce que s'ils font des barrages, avant les barrages, c'était les paysans qui étaient là, ils travaillent tranquillement leur terre, mais quand ils font des barrages, ils expulsent les paysans. Ils les donnent aux multinationales, aux grands producteurs. Donc chaque fois qu'ils aménagent, ce n'est pas pour nous. Allez-y, très loin, vous vous sentez mal, vous ne produisez pas, parce que pour eux, il faut mettre l'argent, et rien que l'argent. Donc c'est ce qui fait que nous sommes organisés et on a compris. Nous avons compris que tant qu'on accepte qu'ils maintiennent l'eau comme un bien privé, comme une marchandise, ils le privatiseront. Et puisqu'il faut retourner en arrière pour les rappeler que ce taux est là, fait partie de cette terre et nous faisons partie de cette terre et que ce taux doit rester dans le commun. Raison pour laquelle dans toutes les luttes qu'on a menées en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Mali, notre combat, c'est d'avoir conservé ce taux en commun. Parce que ce taux permet de nous faire vivre. On a toujours dit aux administrateurs qui sont là, si votre comportement, si vous manipulez, ils vous dominent de rendre cher ce taux, que vous mettez ce taux dans leurs mains, et ils spéculent là-dessus, vous allez provoquer une autre guerre. Une guerre, vous ne serez jamais épargné de cette guerre. Pourquoi? Parce que nous allons vous trouver même dans les bunkers pour vous arracher l'eau que vous conservez pour vous-même. Donc, raison pour laquelle l'an passé, c'était la journée internationale de l'eau a été faite au Sénégal. Et mon organisation, qui est la Convergence globale des luttes, on a fait un contre-forum à Dakar. On a fait venir tous nos éléments de l'Afrique de l'Ouest pour dire, vous ne pouvez pas décider sans nous ce taux, ça ne vous appartient pas. C'est un bien commun à nous tous et la décision doit venir de nous tous. Et chacun doit s'écouter. On n'a pas besoin d'experts pour nous dire que le conserver bien ne pas le conserver bien. Nous savons tous que ce taux fait partie de la vie. Et cette vie et cette eau doivent être gérées de façon légale et équitable. Et non permettre quelques bandits, soit des gens scientifiques ou capitalistes ou banquiers, d'y spéculer sur la tête des autres. Donc c'est le combat que nous menons pour l'eau avec des propositions concrètes pour leur dire qu'il faut maintenir l'eau comme il est, le protéger et que c'est l'ensemble des communautés qui peuvent protéger l'eau et non quelques individus pour les laisser expliquer là-dessus.
Del cielo cae agua, lluvia poderosa. Lávame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria. Sácame toda la ansiedad, no me dejes sola, quiero más agua y saca la pena de mi memoria. Del cielo cae agua.
Poursuivons l'écoute de la table ronde du vendredi 24 mars 2023 qui se tenait dans le cadre de la mobilisation internationale contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Et cette table ronde est intitulée « Regards internationaux sur les luttes paysannes pour les terres et les enjeux liés à l'eau ».
On va repasser la parole à Morgane pour nous parler des luttes contre cet accaparement de l'eau dans d'autres endroits du monde.
Ce qu'a dit Massa, c'est intéressant sur le fait que les États, ils sont divisés parce qu'ils veulent, s'accaparer l'eau les uns les autres. Et du coup, dans le monde, il y a beaucoup d'endroits où il y a des véritables guerres autour de l'eau. Par exemple, entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, autour de l'eau du Nil, il y a une véritable situation de potentielle guerre qui est en préparation autour d'un énorme barrage qui est en construction à l'heure actuelle. C'est le cas aussi au Moyen-Orient, où entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, il y a des très grosses tensions. Et Israël et Palestine, il y a des très très grosses tensions parce que les uns et les autres cherchent à s'accaparer l'eau, encore une fois, pas pour produire l'alimentation, mais pour essayer de devenir le plus puissant possible. Ce sont des courses à la puissance. Et très souvent, ces États, ils essayent d'embarquer leur population avec eux dans ces guerres nationalistes. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans la Via Campesina, on essaye de construire l'unité paysanne. Et je crois qu'on est un mouvement profondément engagé pour la paix. Et pour être engagé pour la paix, il faut sortir de cette logique-là de puissance, d'accaparement et finalement de conflictualité pour savoir qui sera le plus puissant et qui sera le plus grand. Et pour ça, nous, on travaille sur cinq grandes propositions. La première, elle est directement liée à la lutte de ce week-end. C'est partager de façon juste les droits d'usage sur les biens communs. Je dis bien les droits d'usage sur les biens communs parce que ce soit la terre, l'eau, ça ne nous appartient pas. C'est nous qui faisons partie de nos territoires et ce n'est pas le contraire. Par contre, il faut partager de façon juste les droits d'usage. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et après, selon les régions, on a des noms différents. Souvent, dans beaucoup de pays, ils appellent ça la réforme agraire. Et on peut aussi parler de réforme agraire. En Europe, on parle souvent de régulation du foncier ou de politique pour un partage juste de l'eau. Et je crois qu'en Afrique aussi, voilà, y a un mot un peu spécifique. Mais la base générale, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on doit partager de façon juste les droits d'usage de ces biens communs, avec une finalité qui est celle de produire l'alimentation. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une immense concurrence de productions qui sont non alimentaires, notamment des productions énergétiques. On le voit bien en France, mais c'est le cas dans le monde entier, pour faire des agrocarburants, faire des gros barrages pour faire de l'électricité. Enfin voilà, il y a un gros accaparement des terres et de l'eau pour produire de l'énergie. Donc voilà, le premier point, partage juste des droits d'usage sur les ressources. Notre deuxième grand pan de travail à la Via Campesina, c'est autour de la souveraineté alimentaire. Alors, c'est pas la souveraineté alimentaire dont parle le gouvernement français ni le gouvernement italien, je vous rassure. Pour nous, la souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté alimentaire des peuples. Ça veut dire que, en tant que peuple, on a le droit d'avoir des politiques publiques pour soutenir et protéger les petits producteurs d'alimentation, les paysannes et les paysans, les pêcheurs artisanaux. Et notamment, on a besoin de régulation des marchés pour faire en sorte qu'on obtienne un revenu décent pour notre travail. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la logique du libre-marché, du soi-disant libre-échange, de l'Organisation mondiale du commerce, des accords de libre-échange, en fait, on se fait complètement spolier la valeur de notre travail. Et pour faire en sorte que les prix qui nous soient payés pour notre production correspondent au réel coût de production, on a besoin de régulation des marchés et d'outils, comme les stocks publics, par exemple, ou les prix minimums d'intervention, voilà, pour faire en sorte que, bah, qu'on ait un revenu pour notre travail. Le troisième gros pilier de nos luttes, ce sont pour les droits paysans. Les droits paysans, c'est les droits humains, finalement, mais qui s'appliquent aux paysannes et aux paysans. Parce que dans le monde entier, comme on est très souvent parmi les populations les plus pauvres, on vit des discriminations énormes sur nos droits. Et puis aussi, comme on s'accapare nos biens, et ben très souvent, on vit des situations où on se fait brûler nos maisons, dégager de nos territoires, très souvent assassinés. Il y a malheureusement très régulièrement des membres de nos organisations qui sont assassinés, et encore plus souvent des membres qui sont mis en prison. Et donc face à ça, on a travaillé au niveau de l'ONU à une déclaration des droits paysans, qui est un document qui a été adopté après plus de 18 années de très long travail à Genève au Conseil des droits humains. En 2018, une très grande majorité des États du monde ont voté en faveur de la déclaration des droits des paysans et des autres personnes qui travaillent dans les zones rurales. Et pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a une reconnaissance au niveau de l'ONU que nous avons des droits. Il y a une reconnaissance notamment du droit à la terre, du droit aux semences paysannes, du droit à maintenir nos connaissances et nos savoirs traditionnels. Mais il y a aussi une reconnaissance du droit à l'eau, du fait que nous ne pouvons pas être spoliés de l'eau et que l'eau n'est pas une marchandise. Et donc pour nous, c'est vraiment un texte essentiel et on continue à se battre maintenant pour que cette déclaration, elle reste pas juste sur un bout de papier, mais qu'elle soit vraiment appliquée, qu'il y ait des commissions d'enquête qui aillent dans les pays. Du coup, on a passé pas mal de temps à Genève, à ce Conseil des droits humains, et on commence à voir un peu comment ça fonctionne. Et du coup, on a rencontré le rapporteur spécial pour le droit à l'eau, qui s'appelle Pedro Arroyo. Et il nous a dit, mais sur le truc des méga-bassines, là, c'est une violation des droits humains que vous subissez. Et donc, on en a discuté au niveau de la Confédération paysanne. Et la Confédération paysanne est en train de déposer une saisine auprès du Conseil des droits humains pour dénoncer la violation des droits humains que représentent les méga-bassines et dénoncer l'action du gouvernement français. Et pour aller dans le même sens, vous savez peut-être que, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en tout cas, cette semaine, c'est le grand sommet de l'ONU sur l'eau qui se tient à New York. Et ça fait 50 ans qu'on n'a pas eu des conférences à 75 ans. Et hier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il a dit, allez là, il faut passer à l'action. Water action, passons à l'action pour le droit à l'eau. Et donc je crois que c'est ça ce qu'on fait nous ce week-end. Alors j'en étais à trois points. Le quatrième point, c'est l'agroécologie. Nous en France, on appelle ça aussi l'agriculture paysanne. C'est à peu près la même chose. L'agriculture industrielle, elle est extractiviste. Elle ne travaille pas du tout sur le vivant. Dans les monocultures industrielles, il faut mettre des engrais, il faut mettre beaucoup de pétrole, il faut mettre des pesticides, et il n'y a que comme ça qu'il y a quelque chose qui pousse. Ça, ce n'est pas l'agriculture. Ce n'est pas l'agriculture normale. L'agriculture paysanne, l'agroécologie, c'est de travailler avec le vivant sur la fertilité. Et c'est ça ce qu'on fait, nous, tous les jours. C'est-à-dire qu'on travaille avec nos sols, on prend soin de nos sols, on prend soin des animaux qui vivent dans nos sols, on prend soin de l'eau, et on essaye de faire fonctionner tout ce cycle du vivant ensemble pour produire une alimentation saine. L'agroécologie, c'est pas juste des techniques, c'est pas juste, je sais pas moi, la permaculture ou la biodynamie. C'est une vision beaucoup plus large de notre rapport au vivant, où on n'essaye pas de tout contrôler, de tout dominer, de tout exploiter, mais on a un rapport avec le reste de ce qui est autour de nous, de coopération, de création mutuelle. On fait avec les autres, on fait avec nos animaux sur nos fermes d'élevage, on fait avec les plantes, on fait avec le soleil, on fait avec la pluie. Et c'est grâce à ça, grâce à la formidable fertilité de nos territoires, qu'on arrive à produire une alimentation saine. Et ça marche. Grâce à ça, on est capable de produire de l'alimentation pour tout le monde, beaucoup plus en fait que l'agriculture industrielle. Parce que l'agriculture industrielle, il faut bien comprendre une chose. Elle a une chose sur laquelle elle est imbattable. C'est la productivité du travail. En voiture, là, je suis passée devant des fermes où je pense qu'il y avait 500 hectares et je pense qu'il y avait un bonhomme. Je suis sûre que c'était un homme, je suis sûre que c'était pas une femme. Il y avait un bonhomme, je pense, il arrivait à travailler tout seul ces 500 hectares avec ses énormes tracteurs et tout ça. En agroécologie, on peut pas faire ça. Ça marche pas. Mais par contre, si sur quelques hectares de terre, on est toujours plus productif en agroécologie que ne le sera l'agriculture industrielle. Toujours. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'il manque des gens pour travailler dans le monde ? Ou est-ce que ce qui devient rare, ce sont les terres, l'eau, c'est la source d'énergie ? Bien évidemment, c'est la deuxième chose. Et c'est pour ça que l'agriculture industrielle n'a aucun avenir et qu'au contraire, c'est l'agriculture paysanne, c'est l'agroécologie qui a un avenir. Et le dernier point, enfin, pour qu'on puisse survivre, nous, en tant que paysannes et paysans, mais aussi que les autres, qu'on puisse survivre collectivement, qu'on puisse essayer de sortir de cet état de dévastation du monde, c'est le féminisme paysan et populaire. Parce que partout dans le monde, ce sont les femmes qui font l'agriculture paysanne. Partout dans le monde, ce sont les femmes qui s'occupent de produire l'alimentation vivrière dont ont besoin non seulement leurs familles, mais leur communauté. C'est peut-être dommage pour eux, mais un peu partout dans le monde, les hommes, ils ont été beaucoup plus intégrés au système capitaliste, techniciste, industriel, qui a consisté en une grande inégalité pendant très longtemps, mais on a été souvent relayés beaucoup plus dans la sphère privée. Mais on nous a dit, vous allez prendre soin des autres. Et les hommes, ils vont être dans la concurrence et dans le système capitaliste. Et du coup, ça a représenté un système de domination des femmes pendant très longtemps. Et ben, c'est ça qu'il faut renverser. Moi, j'ai pas envie, en tant que femme, de devenir super performante, hyper dans la compétition et tout ça. Mais il faut complètement changer ce système des valeurs. Et il faut que toutes les valeurs qui ont été attribuées finalement aux femmes autour du soin donné aux autres, du soin donné aux animaux, du soin donné à la terre, il faut que ce soit ça qui soit à présent mis en valeur et plus la compétition et la performance. Il faut renverser ce système de violence et de patriarcat et de domination des femmes. Mais le féminisme paysan, enfin, le féminisme en général, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour et les hommes et les femmes. C'est pour sortir d'un système qui met en valeur la domination, l'exploitation, le contrôle des autres, de la nature, de tout, et dire, en fait, non. Nous, on veut prendre soin les uns des autres, on veut coopérer, on veut qu'on nous fiche la paix aussi, et voilà.
Et Massa, si tu veux continuer à nous parler un petit peu des luttes qui se passent dans la région où tu vis.
Oui, avant les luttes, je vais dire quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, nous avons des zones côtières, des zones tropicales et des zones sahéliennes. Dans les zones tropicales, on avait tellement de variétés de poissons. Il y a de ces villes et de ces pays qui sont connus avec des très bons poissons d'eau douce qu'on appelle capitaine carpe. On a tous grandi avec ça. Mais aujourd'hui, c'est les Chinois qui l'importent chez nous. Donc ces poissons, on est en train de les perdre. C'est des conteneurs et des conteneurs de poissons de ces mêmes espèces qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est un danger. C'est un danger pour nous maintenir sous perfusion et de nous nourrir. Et donc tout le monde va travailler pour eux. Et puis, nous, on a dit à notre dernière meeting que c'est fait sciemment. Le fait de les laisser polluer l'eau, le fait de faire qu'on n'ait plus de l'eau dans nos puits, le fait d'assécher nos fleuves et nos rivières effectivement, c'est pour faire disparaître notre agriculture. Nous avons résisté, et jusqu'à aujourd'hui, on résiste, pour que notre lutte de masse, notre action de masse, et les lois aujourd'hui qu'on a catalysées, qui sont les politiques foncières, les politiques des ressources naturelles qu'on a catalysées en Afrique, donc ils n'ont pas d'autre choix que de nous asphyxier. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Parce qu'ils mangent les mêmes poissons que nous, nous pêchons. Et ils savent que les poissons ne viennent plus de nos fleuves, mais que ça vient de l'extérieur. Mais ça ne leur dit rien. Ils ont tenté de nous envoyer sur les monocultures et de nous faire vivre avec les grands McDo de la ville. Nous avons refusé, nous résistons en faisant notre paysannerie. Donc, si nous n'avons plus d'eau, nous allons arrêter ces paysanneries et nous serons leurs ouvriers. C'est ce qu'ils veulent. Et pourquoi nous sommes au méga ici, au méga bassine? Nous savons que si ça réussit ici, ils vont l'amener chez nous. Donc, je suis très content et j'ai informé les organisations. On est là pour tuer le mal dans l'œuf. Nous avons constaté que tous ceux qui réussissent ici sont importés chez nous. On dit que voici un bon modèle. Parce que oui, on dit que bon, ceux qui sont là, qui réfléchissent à leur place, n'ont pas de tête. Donc, l'intelligence est ici, l'argent c'est ici et nous, nous sommes des exécutants et des consommateurs. Ce n'est pas parce que le peuple n'a pas compris. C'est parce que le peuple était dirigé par des gens qui sont nés dans ce système. Et la jeunesse doit comprendre ça. C'est ce qu'on se dise. Il est temps que nous-mêmes nous arrivons à nous affranchir et nous-mêmes à guider notre politique, notre vision. On ne peut pas l'avoir sans pourtant imposer. Tous les combats qu'on mène ici, vous n'êtes pas informés. C'est fait sciemment. Si on vous informe de nos combats, vous allez comprendre qu'ils ont tort. Donc il faut étouffer notre lutte là-bas et nous diaboliser toute notre lutte, nous traiter de tout pour qu'ici, on continue à leur croire et à croire ce qu'ils font de vous ici. Nous sommes colonisés là-bas et ici aussi vous êtes colonisés. Donc ça, il faut le comprendre. Tel est tout l'intérêt d'internationaliser notre lutte. Ils ont fait leur ONU, ils ont fait leur Union africaine, ils ont fait leur Union européenne. À nous de faire l'union des peuples. La planète souffre. Nous avons tous notre part de responsabilité là-dedans. Ce n'est pas l'appel d'aller prendre tranquillement notre bière et dire que nous ne sommes pas les seuls au monde. Chacun doit apporter quelque chose. Et c'est ce que nous, on a compris. Et c'est ce qu'on dit à nos camarades. On est en train de nous sensibiliser, même entre nous là-bas. Si nous fuyons tous, qui va rester pour régler le problème? L'air n'est plus à nous laisser tous fuir, à résister pour changer la donne. Il s'agit d'être engagé pour vivre. L'adaptation des humains n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça va toujours continuer. Fuir n'est plus la solution. Il faut rester, se mobiliser et résister. En 2022, avant la COP, nous avons fait marcher, nous avons fait mobiliser beaucoup de mouvements dans 30 pays de l'Afrique. Et maintenant, nous sommes en train de faire passer que ce qu'on appelle COP, la COP, c'est une farce. C'est pour nous fermer l'œil. La société civile n'a aucun moyen d'influencer sur leur COP. Il nous faut notre propre COP de peuple, des communautés. Imposer notre propre recommandation, parce que c'est nous qui exécutons ce qu'ils veulent. Et si on refuse? Si on refuse, ils ne pourront pas le faire. À un moment donné, il faut qu'on ose nous-mêmes. Il faut qu'on ose nous-mêmes pour changer le système. Sinon, le système, dos au mur, mais continue à nous contrôler. Par nous-mêmes, en nous opposant les uns aux autres, en disant que le problème de l'eau n'a rien à voir avec le problème des terres. Voici, ils sont en train de faire le sommet de l'eau. C'est pour mettre dans notre tête que l'eau n'a rien à voir avec la terre. Ils vont faire le sommet sur la terre. La terre n'a rien à voir avec l'agriculture. Ils vont faire le sommet sur l'agriculture qui n'a rien à voir avec le changement climatique. Puis ils nous divisent entre les thématiques. Et nous-mêmes, nous, on se laisse diviser entre les thématiques. Il est temps de refuser ça. Il ne faut pas qu'on accepte ça. On est venu à Sharm el-Sheikh avec une proposition, une seule. Dans vos solutions, on a tout entendu. Acceptez que l'agroécologie soit dans les solutions que le monde doit accepter dans les négociations pour une solution et une alternative au changement climatique. Ils ont refusé. Ils sont sur leur fausse solution. Ça veut dire que notre solution n'est pas leur solution. Parce que notre solution, c'est pour sauver la planète. Et leur solution, c'est pour sauver leur gueule. C'est là qu'on a compris qu'il n'y a pas d'alternative possible. Autant qu'on se bat pour notre sort, autant qu'on se bat pour sauver cette planète, il n'y a pas d'alternative possible. Je dis, mais je ne sais même pas qui vous contrôle vous-même. Parce que vous n'avez même pas le contrôle sur votre propre vie. Et vous vous disiez dirigeant du monde. C'est déplorable. Donc, c'est pour dire que les recommandations qu'on a mises sur la table, qui ne disent pas que c'est trop, on n'a mis qu'une seule, l'agroécologie, pour alternative. Et on a mis tout le monde en garde et dire à tout le monde, il faut légiférer. Il faut légiférer pour que la gouvernance locale, dans la gouvernance locale que nous avons, pas l'ère décentralisation, hein. Chez moi quand même, la décentralisation n'est pas synonyme de démocratie ni de gouvernance locale. C'est synonyme de contrôle de quelques personnes, de partis politiques qui veulent contrôler le pays au service des multinationales. C'est comme ça que non, notre démocratie n'est pas synonyme. Je ne sais pas chez vous ici, mais chez moi, la décentralisation n'est pas la démocratie. Donc, il faut qu'on soit clair. Nous, on a compris qu'il faut des politiques qui permettent nous-mêmes de contrôler nos territoires. Et dans ce contrôle de territoire, que l'eau fasse partir, que la terre fasse partir, que ce que nous cultivons fasse partir. Et que n'importe qui, dans n'importe quel contrat, ne peut se servir de ces matières sans pourtant concerter, contacter, écouter et qu'on a un droit de refus. Si on ne part pas sur cette base, ils vont tout contrôler. Et quand ils contrôlent tout, nous ne serons que des ouvriers ou ils vont nous faire vivre avec des pilules et travailler dans leur usine. Merci.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.